Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à cette première rencontre Culture Art Travail. On est ravis que vous soyez aussi nombreux. On attend encore une trentaine de personnes, mais pour des raisons de durée de conférence et de dépassement prévisionnel, on va commencer maintenant, on est déjà un petit peu en retard. Je me présente, je m'appelle Nicolas Naudet, je suis directeur de l'association Travail et Culture, qui anime cette plateforme Culture Art Travail. Je vais vous donner quelques indications pratico-pratiques pour cette journée. D'abord, vous dire que à votre gauche, en entrant dans la salle, vous avez une table avec des ouvrages. Donc, il y a des ouvrages sur d'un journal qui s'appelle Travail, qui est développé par une structure qui s'appelle les Musiques de la Boulangère, qui se propose de récolter et de mettre en relation des témoignages de gens qui travaillent, des travaillants. Donc c'est Nicolas Friz et son équipe qui mènent ce travail avec d'autres. Ces journaux sont en libre service. Donc vous pouvez prendre des petites valisettes en plastique et repartir avec. C'est un cadeau des Musiques de la Boulangère. On les en remercie beaucoup. Sur l'autre partie de la table, vous avez des ouvrages qui, eux, sont en consultation, que je vous laisse découvrir. Deux ouvrages de Christian Ruby, le philosophe qui va accompagner notre matinée et qui va intervenir tout à l'heure, et un ouvrage publié par le ministère de la Culture récemment sur art et monde du travail, qui sont une traduction de 5 séminaires autour de ces questions-là. Et bien d'autres ouvrages, mais qui sont en consultation libre, mais que vous ne pouvez pas repartir avec, malheureusement. Voilà pour les informations pratiques. Deuxième information pratique, on est au musée des arts et métiers, donc il y a l'exposition permanente et une exposition temporaire sur les meilleurs ouvriers de France. Vous avez accès aux deux en tant que participant à cette rencontre. Donc ces expositions, vous pouvez les découvrir soit à la pause méridienne, à midi, soit en fin de journée, donc à la fois l'exposition permanente et à la fois l'exposition des meilleurs ouvriers de France, qui est vraiment en lien avec les thématiques qui vont nous occuper aujourd'hui. Vous pourrez récupérer en fin de matinée une étiquette en fait, d'accès à ces deux expositions. Enfin, troisième précaution pratique, nos échanges vont être enregistrés, puisque nous publions en fait, normalement mi-janvier, début février, le compte-rendu et les actes de cette rencontre. Donc n'hésitez pas, quand vous prendrez la parole, puisque la salle évidemment aura la parole, à vous représenter, ce qui nous permettra d'avoir un compte-rendu assez clair. Je l'ai dit, on va essayer de tenir les horaires, on est déjà en retard, donc j'ai déjà menti une fois. Donc je laisse la parole tout de suite à Yves Winquin, qui est le directeur du musée des arts et métiers, et que je remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'accueillir ces rencontres. Pour nous, ça a beaucoup de sens, parce qu'on est au musée des arts et métiers, et que les thématiques, les sujets, les expositions qui sont mis en place et le projet scientifique et artistique du Musée des Arts et Métiers a, me semble-t-il, des liens assez étroits avec nos préoccupations d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves.
Bien, merci. Je ferai mieux de pousser sur le bouton. Merci à vous tous d'être si nombreux. Je dis merci d'emblée parce qu'en fait, vous représentez pour moi, avec l'association, avec la journée que vous élaborez aujourd'hui ensemble, un des piliers, sinon le pilier manquant de ce musée. Je m'explique. Vous le connaissez, ce musée, vous allez le redécouvrir, peut-être y êtes-vous venu quand vous étiez plus jeune, enfant ou encore en âge scolaire, et puis vous l'avez un peu oublié, et en fait ce musée est toujours là, il est là en fait depuis 1799, créé en 1794 par l'abbé Grégoire, qui avait, comme on sait, juré fidélité et loyauté à la Révolution française. Et l'idée était à l'époque, le musée du Louvre, c'est pour les peintures et les sculptures, le muséum d'histoire naturelle, c'est pour les plantes et les animaux, et le musée des arts et métiers, c'est pour les machines. Les machines qui n'étaient pas là dans un souci de conservation, dans un souci d'histoire des techniques, mais dans un souci d'éducation. Il s'agissait d'encourager les artisans à devenir progressivement des industriels et à entrer de manière franche dans la révolution non plus seulement française politique, mais une révolution industrielle que l'abbé Grégoire pressentait ainsi que nombre de personnalités de l'époque. C'est devenu ce musée des arts et métiers progressivement un musée rétrospectif. On est plus aujourd'hui effectivement un musée qui fait l'histoire des machines, qui fait l'histoire des techniques et un peu l'histoire des sciences. Mais, Nicolas y faisait allusion il y a une seconde, j'aimerais beaucoup que ce musée redevienne quelque peu prospectif. Que ici et là, il s'ouvre à des domaines nouveaux, qu'il ait une fonction en quelque sorte de tête chercheuse, comme il l'avait au XVIIIe siècle. Et c'est la raison pour laquelle des journées comme celle-ci sont très importantes. Je pense que c'est par un travail sur des événements, sur des séminaires, ou à partir de séminaires, à partir de journées de réflexion d'études, qu'on arrivera, non peut-être pas à inverser tout le mouvement du musée, mais au moins à équilibrer progressivement ce musée entre un versant rétrospectif et un versant prospectif. Et en matière de prospectif, je dirais, comme j'y faisais allusion en débutant, qu'il manque une dimension, c'est celle du travail. Quand vous traversez le musée, vous apercevez que vous avez là des centaines, des milliers d'objets, nous en avons 80 000 en tout et 3 000 ici même à votre disposition, le reste est dans les réserves. Et comme me disait Daniel Jacobi, qui est un muséologue bien connu, Yves, il faudrait de la sueur sur tes objets. Évidemment, mes responsables de collection ne vont jamais accepter que je mette de la sueur, vraie ou fausse, sur leurs objets sacrés, mais on comprend bien la métaphore. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il manque une dimension, c'est celle des usages, c'est celle des machines en fonctionnement. Comment faire muséographiquement pour faire comprendre que ces machines n'étaient pas nées d'une opération du Saint-Esprit ou Dieu sait qui ? Je n'en sais encore trop rien, techniquement, numériquement, ce n'est pas simple. Mais peu importe, ce n'est pas la question ici. Ce que je veux dire, c'est que la thématique des objets insérés dans un écosystème de travail doit être prise à bras-le-corps. C'est une de nos problématiques pour l'avenir. Nous ne serons pas un musée du travail, mais nous ne pourrons plus ignorer que les arts et métiers, c'était en étroite relation, forcément, avec toutes les modalités de travail. Et notamment, en ce qui concerne une prospective, le travail numérique, le travail à distance, toutes les formes de travail que l'on commence à voir apparaître aujourd'hui. Ce qui veut dire que pour moi, la journée culture, art, travail, c'est les trois piliers sur lesquels on pourrait véritablement faire reposer ce musée à l'avenir. La culture, d'accord, quand bien même, vous le savez, nous ne sommes pas un musée dépendant du ministère de la Culture, nous sommes un des rares musées dépendants du ministère de l'Enseignement supérieur, avec le muséum, et encore ce n'est pas une tutelle totale chez nous, chez eux, alors que c'est pour nous une tutelle totale. Et quant aux arts, et là je voudrais en profiter pour remercier Florence Amiel de m'avoir apporté l'ouvrage consacré à son père, Raymond Rochette, puisque c'est là aussi une des manières de dire le travail, c'est par la représentation artistique. J'essaye d'initier des résidences, on en avait parlé l'autre jour, des résidences d'artistes, j'essaye, vous le verrez peut-être si vous déambulez un peu tout à l'heure dans le musée, une galerie qui pourra offrir des expositions photographiques. J'essaie d'initier des concerts et j'essaie au fond de répondre, bon, je vous avoue que je l'ai trouvé tout à l'heure dans l'IB dans le métro, j'essaie de correspondre à cette très belle définition de l'art que l'on doit à Robert Filliou, je ne peux pas m'empêcher de vous la lire parce que je la trouve très chouette. L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Ça, je trouverais très, très bien, un peu comme dans des motos que l'on pourrait mettre au-dessus d'une porte en entrant dans ce musée. Donc, culture, pas de souci, les arts en progrès, et le travail, c'est avec vous qu'on va pouvoir réussir, à mon avis, cette opération dans les années qui viennent. Donc, merci encore, vous êtes ici chez vous, et j'espère vous croiser, si ce n'est dans la journée, au moins au cours des prochaines semaines ou des prochaines années. À bientôt donc.
Alors, merci beaucoup Yves pour cette introduction documentée, à la fois sur le musée puis sur cette rencontre. Un petit rappel du programme, donc dans quelques minutes, je vais inviter Nicolas Monco, qui est chargé de mission, entre autres, Culture Travail au ministère de la Culture, à me rejoindre ici sur scène. Donc on va introduire ces rencontres à deux voix, puisqu'on a invité, on a souhaité inviter le ministère de la Culture à venir, qui soutient cette initiative, à venir introduire ces rencontres avec nous. Suivra à 10h30 un entretien avec un philosophe qui s'appelle Christian Ruby, qu'on représentera tout à l'heure, un entretien entre Christian Ruby et Jean-Pierre Burdin. Jean-Pierre Burdin qui nous a accompagnés dans l'élaboration, dans la structuration à la fois de la plateforme Culture Art Travail et à la fois dans cette journée. un entretien sur des enjeux pour aujourd'hui, sur ce champ, si on peut appeler ça un champ, culture, art, travail. Et enfin, à 11h30, une intervention d'un réalisateur qui s'appelle Stéphane Le Gall-Villiquet, au cœur de l'activité de travail, comment documenter l'activité de travail, où là, on reviendra justement sur ce qui fait le cœur chaud du travail, donc l'activité elle-même, de 11h30 à 12h30. On va essayer de tenir les délais, et à 12h30, on ira déjeuner chacun dans son coin, déjeuner libre. Et je demanderai aux intervenants et au comité d'organisation de nous rejoindre, nous, pour un déjeuner commun au Café des Techniques. Et donc, on reprendra à 14h15 de façon impérative. Voilà, pas comme ce matin. Donc, j'invite Nicolas Manco à venir me rejoindre sur scène. Ça dépend comment on écrit le mot scène. Et donc, juste rappeler qu'effectivement, à la fois la plateforme numérique culture art travail, à la fois cette rencontre qui est l'une des composantes de cette plateforme, est soutenue et accompagnée par le ministère depuis le début. Nicolas, je te cède la parole.
Bien, bonjour à tous. On est ravis au ministère de la Culture d'être d'assez longue date partenaire du travail de beaucoup d'acteurs qui sont dans la salle, et particulièrement de Travail et Culture, qui porte cet outil absolument utile, mais Nicolas en fera la démonstration tout à l'heure, pour le lien entre tous ceux qui travaillent autour de la question du travail et l'ensemble du champ de la culture. Ce que je voulais dire en introduction, c'était remettre un tout petit peu en perspective cette histoire, ce partenariat, ce compagnonnage avec le ministère de la Culture, puisque cette rencontre et la naissance de cette plateforme aujourd'hui remonte à une volonté de 2011 au ministère de la Culture de réunir. Alors, il y a eu, je vous évoquerai pas différentes étapes, puisque les liens entre le ministère et la question du travail ne remontent pas à 2011, évidemment, mais il y a eu une espèce de reprise en main de ce sujet à partir de 2011 autour de la création d'une mission qu'on a appelée Culture et Monde du Travail, placée au sein du secrétariat général du ministère de la Culture. Pour expliquer, pour ne pas être trop long, il se trouve que le ministère de la Culture est organisé aujourd'hui autour de trois grandes thématiques, trois grandes directions générales. D'un côté, le patrimoine, de l'autre, tout le champ de la création artistique, et dans un troisième secteur, les industries culturelles et le livre. Et le secrétariat général est chargé de politique de coordination de l'ensemble. Donc c'est pour ça que le Culture et Monde du Travail avait été placé au sein du secrétariat général, et beaucoup d'acteurs avaient été réunis à l'époque autour de grandes questions, de grandes problématiques, qui étaient, je les cite, d'investir donc par les politiques culturelles les territoires du travail, de favoriser l'émergence et la reconnaissance de la dimension culturelle et transformatrice du travail en tant que telle. Il s'agissait également de mettre en évidence la culture comme un élément de cohésion sociale au sein de l'entreprise et le monde de l'entreprise comme un lieu d'accès ou un lieu producteur de culture. Dans ce cadre, ce groupe de travail qui réunissait des acteurs extrêmement divers, c'est-à-dire à la fois des artistes, leurs organisations, des associations, le monde de l'entreprise, des syndicalistes, des comités d'entreprise, le monde universitaire, qui travaille aussi beaucoup sur ces questions. Différents travaux se sont mis en place et qui ont commencé la première année autour d'une thématique qui était filmer le travail. Et avec un certain nombre de résultats, je citerai notamment le film qui est de Sébastien Jousse, « C'est quoi le travail ?», qui est aussi le produit de ces réflexions et de cet accompagnement. Donc il y a eu des réalisations concrètes. Je ne citerai pas tout, évidemment. Et c'est dès ce moment-là, effectivement, que la question du lien entre ces acteurs et des outils opérationnels pour arriver à élargir le champ de tous ceux qui travaillent, pour les réunir, en fait. Parce qu'il y a énormément de choses aujourd'hui qui tournent autour de la thématique du travail dans le monde culturel, et tout ça, d'ailleurs, est réciproque. Ces réflexions ont commencé à s'engager, et d'autres opérations ont suivi. Le politique, d'ailleurs, a commencé à y être sensibilisé un peu plus. Et tout ça a débouché finalement par En 2014, autour de la semaine de l'industrie, avec un partenariat entre notre ministère et celui d'Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti, Arnaud Montebourg, sur toute une semaine et une série d'actions qui se sont traduites par notamment l'organisation, si certains s'en souviennent, de résidences d'artistes, dans cinq régions en particulier pilotes que je veux citer, le Limousin, la Lorraine, Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes et PACA. Il y a eu effectivement des partenariats qui se sont noués pour des résidences d'artistes en entreprise. Il y a eu aussi, certains s'en souviennent, la fameuse opération qui s'appelait l'entreprise à l'œuvre, qui consistait à déplacer dans les lieux de travail, avec aussi toute une réflexion autour de la médiation, comment les salariés s'emparaient aussi de la question de la médiation, de la transmission, de la préparation d'expositions. Il s'agissait d'amener dans les entreprises des œuvres des collections nationales. Il y a eu une dizaine d'entreprises qui ont accueilli effectivement cette opération. Il y a eu aussi... évidemment, ça a débouché, tu l'as signalé Nicolas aussi tout à l'heure, sur le champ de la création artistique porté par la Direction générale de la création artistique, un programme de séminaire sur art et monde du travail qui s'est tenu au CESE, c'est-à-dire au Conseil économique, social et environnemental, qui a débouché sur une restitution, sur une plaquette, un travail en fait de synthèse que je montre là, que je remettrai sur la table parce que je l'ai juste emprunté. Ça a aussi débouché sur une charte, art et monde du travail, et sur une nouvelle vague, il y en a eu plusieurs, mais encore récente, d'appels à projets, enfin de sélection de projets, autour d'une nouvelle vague de résidences d'artistes en entreprise. Je voulais aussi citer deux, trois autres opérations. L'une qui est un petit peu compliquée, qui est, au moment de cette semaine de l'industrie, la signature par la ministre de l'époque, Aurélie Filippetti, et une quinzaine de signataires, une dizaine, je ne me souviens plus exactement, mais représentants des associations, des fédérations de comités d'entreprise, d'une convention culture-tourisme, qui aujourd'hui reste posée au niveau de ses suites et au niveau de ses prolongements. Elle avait été signée en avril 2014. Et puis, tout ça a aussi entraîné au ministère de la Culture d'autres initiatives, et ce qui est aussi à signaler, par exemple, le fait que le ministère s'est préoccupé aussi de la question de ses propres travailleurs, c'est-à-dire les agents même du ministère de la Culture, les entreprises sous-traitantes, il y en a aussi beaucoup qui travaillent chez nous, et aussi tout un travail a été fait d'enquête, de dialogue avec les personnels, pour voir quelles étaient leurs appréhensions eux-mêmes de leur travail et du lien avec la culture, et ce qui d'ailleurs, ils étaient eux-mêmes, et on a eu quelques surprises, au niveau de ce qu'était leur pratique culturelle et comment ils le liaient à leur travail, parce que leur travail au quotidien, c'est la culture, dans différentes dimensions, qu'elles soient administratives, mais aussi la médiation, aussi la présence dans l'ensemble de nos établissements. Donc, le travail aussi que nous menons, puisqu'il est présent jusque dans cette salle, c'est aussi d'accompagner un certain nombre de projets. Et je voulais notamment citer le partenariat long que nous avons avec les musiques de la Boulangère et Nicolas Frise, notamment au travers de la publication en plusieurs années, en plusieurs numéros, et aujourd'hui rassemblée du journal Travail. Je voulais aussi, alors même si c'est des choses qui sont indépendantes, mais qui ont aussi des beaux projets, à nouveau, les musiques de la Boulangère, je me rappelle de cette magnifique résidence de longue haleine qui avait été menée aux Archives nationales. Donc, c'est aussi des choses où la création a rencontré un monde tout à fait fascinant, d'ailleurs, qui est celui des Archives nationales, avec un spectacle, enfin, avec un résultat qui a donné lieu à plusieurs représentations. Voilà, donc pour en finir, le travail que nous avons mené avec TECRIAC, enfin Travail et Culture, concernant cette plateforme, a donc été d'arriver à cerner quels étaient les besoins d'union, d'unification de l'ensemble des acteurs. Et aujourd'hui, la médiation et le travail par une plateforme numérique est probablement ce qu'il y a de plus performant, de plus efficace aujourd'hui, comme un outil. Et nous avons longuement discuté ensemble de quelles étaient ces finalités, ces objets, ce projet. Et il est, la plateforme est ouverte depuis maintenant quelques mois, donc elle existe, Nicolas va en parler, mais elle est en construction et il nous a semblé très important de pouvoir réaliser cette journée pour d'une part la faire connaître, en faire connaître les potentialités et surtout dire qu'elle appelle énormément de prolongements, de croissance, elle appelle à se développer et dans son développement, nous souhaitons, nous au ministère de la Culture, continuer à être partenaires de cet outil qui est absolument d'intérêt général, je le crois, et qui mutualise l'ensemble des forces de ceux qui travaillent pour faire progresser cette question, même si, en le disant, je sais que pour ce qui relève de la part de l'État et du ministère de la Culture, nous avons aussi encore beaucoup de choses à développer. Nous le faisons avec les moyens aussi qui sont les nôtres. Sachez que notre préoccupation est sérieuse sur le sujet. Et que je vais, y compris aujourd'hui, participer toute la journée à vos rencontres pour aussi écouter ce qui peut se dire. Et nous restons ouverts à vous rencontrer les uns et les autres progressivement pour que nous fassions progresser ces questions. Je voulais juste terminer mon propos par un mot tout à fait personnel. Il se trouve que moi, j'ai beaucoup appris dans mon parcours sur les questions des liens entre, pour reprendre la phrase, des liens et de l'alliance fertile entre les acteurs de la création et les acteurs du monde du travail. Et celui, un de ceux qui m'en a beaucoup parlé et qui m'en a beaucoup appris, c'était mon ami Jacques Ralite, que je voulais signaler aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci Nicolas, et merci au ministère de la Culture pour cette contribution. Effectivement, ça n'est qu'un début, comme on dit. Cette plateforme en est à ses prémices. Elle a été mise en ligne en avril 2017, en avril de cette année. Dans l'un des onglets que je vous présenterai tout à l'heure sur la plateforme, sur Internet, dédié au réseau des acteurs, nous étions 7 en avril 2017. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine, ce qui, à mon avis, est un signe plutôt positif sur la nécessité de réunir autour de ces questions. Mais je voulais d'abord rappeler que cette rencontre a d'abord pour première ambition d'être un temps de travail collectif autour des relations culture-art-travail. D'abord un temps d'écoute, d'échange et de débat. D'abord un temps pour interroger ces relations et construire de nouvelles pistes de réflexion et de projets communs pour le monde du travail dans toutes ses composantes, dans toute sa diversité. Notre ambition est donc de réunir les acteurs en respectant évidemment les singularités et les différences de chacun. Créer de nouveaux commencements et ne pas consentir au délitement et au renoncement à l'heure où les relations entre le monde du travail et la sphère plus proprement culturelle, symbolique, se trouvent considérablement bouleversées, disions-nous dans notre texte d'intention de cette journée. C'est que les questions et les problématiques autour des liens et relations entre culture, art et travail semblent avoir été un peu délaissées en apparence, et seulement peut-être en apparence, par le champ des politiques publiques, mais également, et c'est assez paradoxal, par les acteurs du monde du travail eux-mêmes. Cette double particularité, cette double obscurité, pourrait-on dire, est assez surprenante à l'heure où le travail revêt, pour la majorité de nos contemporains, qu'ils aient un emploi ou qu'ils n'en aient pas, une importance fondamentale. De nombreuses enquêtes, en Europe notamment, nous apprennent que la plupart des Français sont très attachés à leur travail. La peur de perdre son emploi ne suffirait probablement pas à expliquer cette tendance. Ces mêmes enquêtes nous apprennent que les Français attendent beaucoup de leur travail, ils veulent s'y accomplir et exprimer leurs compétences et pouvoir être fiers de leur métier. Toutefois, la France continue, sur la question du travail, à avoir une place assez singulière en Europe, une place paradoxale, parce que les Français sont à la fois ceux qui accordent le plus d'importance dans leur travail, et ces enquêtes nous le montrent souvent, et ceux qui souhaitent le plus voir la place de celui-ci diminuer dans leur vie. Dans ces conditions, penser dans le débat social, et j'en viens à notre sujet, les rapports entre le travail et plus largement la culture, qui englobe la question de la création artistique, est loin d'être une évidence. Le travail est d'ailleurs plus souvent considéré comme un sujet social ou économique et plus rarement identifié comme un sujet de culture à part entière. Pourtant, le travail est potentiellement sujet et objet de culture, si on en prend une définition un peu anthropologique. Certains travaux en sciences sociales nous apprennent qu'il est une composante évidemment essentielle de l'identité sociale des individus et occupe une place centrale dans leur vie. Si je parle trop vite, vous levez la main parce que je sens que mon débit s'emballe. Loin d'envisager le travail seulement dans sa dimension atrophiée, qui serait celle de l'emploi, réduite à celle de l'emploi, ces recherches nous invitent à le regarder comme une activité humaine complexe, multiple et ambivalente. C'est à ce titre que le travail serait potentiellement producteur et source de culture. Dans ce contexte, et seulement peut-être en apparence, le champ culture-art-travail reste dans une obscurité relative. En apparence seulement, et là je vais m'accrocher au propos de Nicolas Monco, car si nous y portons un peu d'attention, si nous allons y voir d'un peu plus près, des initiatives, des projets existent, sont élaborés et mis en œuvre par une diversité d'acteurs. Comités d'établissement, entreprises, structures et institutions du champ professionnel de la création artistique, acteurs de la recherche en sciences sociales, associations, festivals, etc., etc. Par ailleurs, le ministère de la Culture lui-même impulse ou accompagne des initiatives et projets. Je pense que Nicolas en a fait le panorama, enfin un panorama en tout cas. Cette dynamique reste pourtant peu connue, et c'est là où la plateforme Culture Art Travail, à mon avis, a toute son importance, et peu visible dans l'espace public et médiatique, peu visible et surtout atomisée. Cette plateforme Culture Art Travail tente de répondre d'abord à cette nécessité de mise en visibilité des projets et actions de cette diversité d'acteurs et souhaite favoriser dans le même temps la connaissance de leurs initiatives, mais également leur reconnaissance mutuelle. Parce que l'une des caractéristiques des acteurs, de ces acteurs-là, c'est que pour certains d'entre eux, ils se connaissent, mais la plupart d'entre eux ne se connaissent pas, travaillent les uns à côté des autres et ne communiquent pas, ne se connaissent pas. Il faut rappeler ici, évidemment, que les préoccupations relatives aux questions qui nous occupent, et là je vais aller plus rapidement que ce que mon papier me dit, aujourd'hui sont déjà anciennes et évidemment non exclusives. Pour mémoire, des initiatives culturelles et artistiques, des rencontres, des groupes de travail, des séminaires, des rapports, issus du monde du travail ou s'inscrivant dans l'entreprise, sont nombreuses, qu'elles soient à l'initiative du ministère de la Culture ou celle des acteurs eux-mêmes. Alors, je ne vais pas remonter beaucoup plus loin que ce qu'a pu faire Nicolas. Juste vous signaler que cette histoire est longue et que notre initiative d'aujourd'hui et la plateforme Culture Art Travail s'inscrit dans différentes dynamiques. Dans ces dynamiques, il y a effectivement ce que le ministère de la Culture a pu impulser historiquement sur ces questions-là, les initiatives que les acteurs ont pu prendre. Et dans les initiatives que le ministère a pu prendre, il y en a une qui est un peu historiquement un fondement, que sont les rencontres culture-travail organisées par le ministère de la Culture en 1985 au Havre, en fait. Et là, j'en profite pour... c'était la première rencontre. Il y a des actes qui ont été édités. À mon avis, il mériterait ces actes d'être numérisés. Alors, parce que c'est un sujet, ces rencontres finalement deviennent un sujet de mémoire et aussi restent aussi encore un point d'appui historique important. J'en profite pour rendre hommage à Georges Rosweg, qui était directeur de la Maison de la Culture du Havre à l'époque, qui était agent du ministère de la Culture et qui nous a quittés très récemment. Voilà. Je ne reviendrai pas sur ce que Nicolas Monco a pu aborder, puisqu'il l'a abordé, évidemment. Juste pour signaler que dans les années 2000, le ministère avait constitué un groupe de réflexion culture et monde du travail, des organisations syndicales confédérées, des comités d'entreprise ou des organismes s'y apparentant. Et des directions du ministériel, à la fois du ministère de la Culture et à la fois du ministère du Travail à l'époque. Cette rencontre du début des années 2000 a donné un rapport dit Goulois, du nom de son auteur, que vous pouvez encore vous procurer, commandité par le ministère de la Culture et de la Communication et par l'IRES à l'époque. Du côté des acteurs, on retiendra historiquement, c'est un peu long, mais je pense que c'est important en fait d'essayer de singulariser les dynamiques dans lesquelles nous nous inscrivons aujourd'hui. Que voilà, nous ne sommes pas une génération spontanée qui naît comme ça et qui a envie de mettre en place une plateforme culture à travail, mais que cette dynamique culture à travail s'inscrit dans des histoires singulières et plurielles. Donc du côté des acteurs, on retiendra, alors c'est, je fais un historique subjectif évidemment, hein, je laisse plein de choses de côté, Mais on pourra retenir le colloque Art et Travail, les rencontres nationales culture et monde du travail organisées à Saint-Nazaire en 2001 par le Centre de culture populaire de Saint-Nazaire, qui est aujourd'hui aussi l'un des acteurs de la plateforme culture Art Travail, et par Travail et Culture. Là aussi, des actes ont été publiés, édités chez l'Harmattan et sont disponibles. Et plus récemment, on pourra citer encore une initiative de nos amis du Centre de culture populaire de Saint-Nazaire, le colloque Art et Travail, Culture et Entreprise, Nouveaux Horizons, organisé les 21 et 22 novembre 2013 à Saint-Nazaire, à l'occasion des 50 ans du Centre de culture populaire de Saint-Nazaire. Je ne reviendrai pas sur les groupes de réflexion culture et monde du travail, déjà évoqués par Nicolas. Simplement pour dire que ce groupe de travail qui s'est réuni entre 2011 et 2013, Nicolas l'a dit, a eu des suites puisque des acteurs, des initiatives, des projets ont été soutenus de façon expérimentale ou pas. Nicolas a cité les musiques de la boulangère. Je citerai pour ma part une exposition, je ne vais pas citer tout le monde parce que sinon je vais en vexer quelques-uns, mais j'en citerai quand même un seul, mais vous verrez c'est pourquoi. Je citerai l'exposition « Beau boulot » à la maison des métallos, initiée par l'association Un sourire de toi et je quitte ma mère, association que dirigeait notre amie Patricia Perdrizet, qui a disparu en début d'année et dont les projets artistiques et culturels vers et sur le monde du travail auront grandement contribué à leur manière à alimenter nos dynamiques actuelles. Voilà, je tenais à citer la contribution du sourire et de Patricia à nos dynamiques actuelles. Alors, j'en viens enfin à notre sujet d'aujourd'hui. La création d'une plateforme numérique nationale de ressources culture art travail prolonge évidemment toutes ces dynamiques. Elle a été initiée fin 2016 par Travail Culture, soutenue par le ministère. Elle a été mise effectivement en ligne en avril de cette année. Alors, petite démonstration pratique, si tu veux bien, Caroline. Donc cette plateforme a plusieurs objectifs. D'abord, de permettre la constitution d'un réseau ouvert des acteurs de la culture, et le mot ouvert a toute son importance, et du monde du travail, mobilisé sur les rapports culture-art-travail, favoriser leur connaissance et leur reconnaissance mutuelle. Ça marche ? Oui, ça marche. Mettre en visibilité la diversité de la richesse des projets développés à l'échelle nationale et croiser réflexion et expérience. Contribuer à l'accompagnement et à la formation des acteurs, parce que c'est aussi une plateforme ressource, dans l'élaboration de leurs projets et la qualification de leurs démarches, puisque tous les acteurs qui sont réunis aujourd'hui autour de cette plateforme sont des véritables ressources pour d'autres, et permettre l'émergence à terme d'actions novatrices de développement culturel et artistique avec les acteurs du monde du travail. Et enfin, et c'est un peu l'objet de notre journée aujourd'hui, faire progresser la réflexion de façon collective avec l'ensemble des acteurs du champ culture art travail. Alors, je vais me mettre à la place de Caroline pour vous montrer comment tout ça fonctionne de façon pratique, pour que des acteurs qui sont là aujourd'hui et qui ne seraient pas dans ce réseau culture art travail, s'ils souhaitent nous rejoindre, puissent voir qu'ils peuvent dès aujourd'hui contribuer de façon très très concrète à la dynamique, au moins numérique dans un premier temps, de cette plateforme. Voilà. Alors le premier onglet, c'est effectivement l'agenda partagé des... J'ai pas l'habitude de cet ordi, c'est une horreur. L'agenda partagé des initiatives culture art travail. Donc voilà, on a un calendrier avec des expositions, plusieurs entrées, expositions, films, théâtre, etc. Soit en mode calendrier comme celui-là, soit en liste, ce qui est parfois plus lisible. Donc là, voilà, on a les meilleurs ouvriers de France, exposition, ici. C'est un hasard, hein, je suis désolé. C'est comme ça. C'est un hasard heureux, mais c'est comme ça. Et voilà. À Rochette, justement, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, Yvinquin. Voilà. Et puis, une carte géolocalisée des événements qui sont référencés actuellement un peu partout dans l'agenda. Donc voilà. Vous cliquez sur le... Voilà, et vous avez encore Rochette, d'accord. Voilà. Du théâtre. Voilà. Donc voilà pour l'agenda. Ce qui est intéressant dans cet agenda, c'est qu'il est, il est collaboratif et participatif. Donc vous pouvez annoncer un événement avec cet onglet-là. Et donc vous remplissez un champ, événement, date de début, date de fin, etc. Vous envoyez tout ça, vous le validez, vous l'envoyez. Et nous éditorialisons cette page. Pourquoi on l'éditorialise ? Parce qu'effectivement, il y a les petits malins qui pas très souvent, mais qui s'amusent à envoyer des informations qui n'ont rien à voir avec le champ, évidemment. Là, en ce moment, on est en pleine période de fête. Donc on a eu deux contributions sur des marchés de Noël qui ne me semblent pas tout à fait cadrées avec la thématique. Quoique. Donc voilà, n'hésitez pas à remplir ce champ. La tentative, c'est que depuis d'avril à décembre aujourd'hui, on a, nous, éditorialisé nous-mêmes, on fait de la veille, hein, évidemment, sur un certain nombre de sites Internet, auprès de certains partenaires, à commencer par les membres du réseau. On aimerait bien que l'usage fasse que l'information remonte aujourd'hui, ce qui est compliqué. Un usage ne se décrète pas, il se construit. Et donc la tentative aujourd'hui, c'est ça, c'est que cette plateforme puisse être contributive et active dans l'autre sens. Donc voilà pour l'agenda qui est la première fonction de la plateforme. Et après, vous en avez bien d'autres, si j'arrive à retrouver. C'est pas la même. On est sur un partage de connexion, donc c'est un peu compliqué, c'est pas la même configuration. Voilà. Et donc après, vous avez la plateforme avec plusieurs onglets. Bon, un onglet revue de presse sur lequel je vais passer assez rapidement. Où là aussi, vous pouvez, de toute façon, il y avait Arnaud Théval en premier, hein, c'est un de nos intervenants d'aujourd'hui, hein, heureux hasard aussi. Donc là aussi, vous pouvez contribuer si vous voulez proposer un article à la plateforme, là aussi, c'est pareil, vous pouvez contribuer, télécharger un fichier, un fichier texte ou image, me semble-t-il d'ailleurs, et l'envoyer. Donc voilà, c'est une revue de presse qu'on éditorialise de façon relativement régulière. Alors, Arrêt Travail, c'est un espace qui va devenir, qui ne l'est pas tout à fait, mais qui va devenir un espace ressource sur les œuvres artistiques. Alors moi, je souhaiterais, mais on verra dans le déroulé de la journée, qu'on ait à la fois les œuvres artistiques et les projets culturels, en fait, dans cette dynamique-là. Voilà, la plateforme est quelque chose de mouvant, hein, avec les outils numériques. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les faire évoluer relativement facilement. Donc pour l'instant, on a commencé à répertorier des œuvres artistiques, qui parle de la question du travail. J'aimerais bien qu'on y inclue à terme les démarches de projet culturel, au sens large du terme. Donc là, c'est pareil, vous allez sur l'onglet et vous avez donc différentes occurrences. Donc là, pour l'instant, c'est classé par catégorie, hein, livre, spectacle, exposition, audiovisuel, musique. Si on prend musique, on a Nicolas Frise. De Rodin, donc avec des liens vers les œuvres à chaque fois, évidemment. Et là, même principe que sur les autres onglets. Si vous voulez ajouter une œuvre, vous cliquez et vous atterrissez directement sur un champ qui vous permet de charger toutes les informations que vous souhaitez nous transmettre, avec un lien vers l'œuvre et des fichiers à télécharger également pour nous les envoyer. Et enfin, donc le réseau. Donc là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de possibilité d'envoyer directement une contribution, pour la bonne et simple raison, c'est qu'avec Jean-Pierre Burdin, qui, je le rappelle, nous a vraiment accompagnés dans l'élaboration de la plateforme et dans l'élaboration de ces rencontres, nous rencontrons systématiquement, évidemment, les acteurs de façon physique. Pour que cette question de la reconnaissance, de la confiance, puisse se nouer sur des bases solides, et non pas simplement sur des intentions numériques. Donc là, il y a le réseau. Alors, vous voyez qu'il y a une disparité territoriale. Hein. On n'a pas des acteurs partout. Alors, si on zoome un peu, on se rend compte qu'à Paris, il y en a plus qu'ailleurs. Hein. On est encore un pays jacobin. C'est comme ça. Donc là, c'est pareil. Vous cliquez sur les onglets et vous avez le festival Film et Travail à Poitiers, par exemple, avec un petit résumé de son action. Et une présentation de l'ensemble des acteurs. Donc la PSE, par exemple, hop, on a une petite description. Et en général, le nom d'une personne ou les coordonnées. Là, la fiche n'est pas complète. Par exemple, les Archives nationales du monde du travail. Hop, et là, on a des coordonnées. Voilà. Anne Lebel, la directrice, les réseaux sociaux, parfois un numéro de téléphone ou des gens à contacter. Par exemple, voilà, ça, autour du 1er mai, avec nos amis Sylvie et Stéphanie. Donc voilà, on a des contacts et les gens peuvent contacter directement, soit par les réseaux sociaux, soit par téléphone les personnes. Ce réseau, il est composé pour l'instant. Là aussi, il faudrait essayer de peut-être définir à terme des catégories. Par exemple, le Centre d'histoire du travail de Nantes et les Archives nationales du monde du travail, on pourrait dire que c'est une catégorie mémoire, histoire, archives. Nicolas Frise, les musiques de la boulangère, on est sur la question de la création artistique. Donc peut-être, à terme, faudra-t-il réfléchir à catégoriser un peu mieux ces acteurs, puisque pour l'instant, dans la vingtaine d'acteurs, on a des comités d'entreprise. Il y a le comité d'entreprise ST Microelectronics qui va venir intervenir aujourd'hui, ou la CCAS. Des structures issues du monde de l'entreprise, je pense à Mécènes du Sud ou à Entreprises et Découvertes, des festivals, Filmer le Travail, des associations ressources, Théâtre et Monde du Travail, des structures intercomités d'entreprise, le Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire, des coopératives, la coopérative Dire le Travail, qui travaille beaucoup autour de l'expression du travail par l'écrit, Operae, qui est une association de Corse, d'Ajaccio, qui s'appelle Penser le Travail, qui travaille sur l'activité de travail et comment les gens arrivent à exprimer cette activité. Donc aujourd'hui, on a un foisonnement d'acteurs. À mon avis, il faudra qu'on puisse réfléchir à la façon dont on peut organiser, catégoriser un peu mieux ces acteurs pour qu'on s'y retrouve un peu plus. Mais encore une fois, on a commencé en avril, on est au mois de décembre. Je trouve que pour l'instant, on n'a pas à rougir de ce travail. Et enfin, un dernier onglet qui s'appelle l'ADOC. En fait, il se trouve que Travail Culture a un centre de documentation modeste mais assez précis, d'environ 2000 ouvrages, sur les liens spécifiques entre culture et travail. Donc en fait, en attendant de mettre à disposition, parce que de façon numérique c'est un peu plus compliqué, ça coûte un peu plus cher, l'ensemble de notre fonds documentaire, on met en ligne les dernières acquisitions du centre de documentation. En fait. Donc là, par exemple, on a nos amis de Belgique, Culture et Démocratie, qui ont fait tout un travail sur l'artiste au travail et qui nous ont transmis leurs documents. Les meilleurs ouvriers de France, évidemment, ici, parce qu'il y a un magnifique catalogue dirigé par Arnaud Dubois qui a été édité ici par le Musée des Arts et Métiers. Donc le travail de Nicolas Frise, par exemple, ou alors après, des documents en ligne, Arrêt Monde du Travail, dont parlait tout à l'heure Nicolas Monco. Donc l'intégralité des synthèses des séminaires Arrêt Monde du Travail sont en ligne et on peut les télécharger, hein, parce qu'il y a une version papier, mais il y a aussi une version numérique. Voilà pour l'ensemble des onglets de cette plateforme. Donc comme vous l'avez compris, c'est une plateforme contributive. Elle ne fonctionnera que si les personnes s'attachent à... Oui, elle fonctionne bien déjà, me dit le ministère de la Culture. Donc elle fonctionne bien déjà, mais elle fonctionnera encore mieux si les acteurs contribuent directement à son animation. Voilà, moi j'en ai fini pour ma petite présentation. Je ne sais pas quelle heure il est, il ne reste pas beaucoup de temps. Si vous avez des questions, des interventions, des interrogations... On a deux micros, je ne sais pas si les micros sont, Caroline, si tu veux bien, deux micros HF qui vont circuler dans la salle. On est quasiment dans les temps parce qu'il est presque 10h30, donc on peut enchaîner sur l'autre table ronde. Mais si vous avez des interrogations, des questions, dès maintenant, on peut prendre 5 minutes pour pouvoir y répondre éventuellement. Nicolas ?
Je voulais juste ajouter un petit point d'information. Alors, vous en mesurerez vous-même la portée ou l'absence de portée. Vous avez peut-être entendu parler qu'il y a plus d'un an maintenant, au terme d'un long processus, il y a eu une loi importante concernant la culture qui s'appelait la loi LCAP, Liberté de création, architecture et patrimoine. Et il se trouve qu'au sein des débats parlementaires, un amendement d'origine parlementaire a introduit la question de la culture dans le monde du travail. En clair, c'est le représentant de l'administration qui le dit, mais il y a, ce qui n'était pas avant le cas, un support législatif aujourd'hui. Donc c'est aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, même si il n'y a pas... Il y a encore tout à faire derrière. Je voulais simplement vous lire cet article vite fait. Il se trouve qu'il définit pour la création artistique un certain nombre de champs dans lesquels l'État et les collectivités ont des obligations. C'est rédigé comme tel. L'État, à travers ses services centraux, et déconcentrées, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, définissent et mettent en œuvre, dans le respect des droits culturels des personnes, une politique en faveur de la création artistique construite en concertation avec les acteurs de la création artistique. Cette politique poursuit les objectifs suivants. Il y a une série de tirets, et parmi ces tirets, favoriser l'accès à la culture dans le monde du travail. C'est la loi française. Voilà. Je voulais simplement le signaler, c'est la première fois que cette question a une traduction dans la loi. Ensuite, ça peut être un point d'appui, y compris pour rencontrer un élu local, je ne sais pas. Voilà. Je voulais quand même le signaler, puisque c'est un élément aussi dans le paysage qui peut servir de point d'appui.
Merci Nicolas pour ce rappel à la loi. Si vous n'avez pas de réaction, ça on n'appelle pas forcément tout de suite, si, une réaction, youpi.
Je vous le dis, après l'intervention de l'intervenant suivant, je vous donnerai les références de l'article, je vais le retrouver tout de suite. C'est le 3 ou le 4, c'est l'article 3 ou 4, c'est ça que je ne sais plus, mais je vais vous le dire tout de suite.